France Culture.
La science, c'est QFD. Antoine Beauchamp.
299 792,458 km par seconde, c'est la vitesse maximale atteignable par une particule dans le vide de l'univers, et c'est la vitesse qu'atteint sans peine la lumière. Comment a-t-on estimé cette vitesse, et pourquoi le caractère infranchissable de cette limite soulève-t-il autant de questions en physique ? Il a fallu des siècles de découvertes scientifiques sur la nature de la lumière et de calculs chaque fois plus fins pour parvenir à une estimation de sa vitesse. Au début du XXe siècle, la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein a pour sa part fait de la vitesse de la lumière une valeur maximum invariante au-delà de laquelle rien à part elle-même ne peut circuler. Alors qu'aujourd'hui, les accélérateurs de particules les plus puissants produisent des protons qui s'approchent de la vitesse de la lumière sans jamais l'égaler, on se demande pourquoi il ne suffit pas d'ajouter de l'énergie pour égaler la vitesse de la lumière, et si la notion même de vitesse est adaptée à des échelles qui dépassent celles de notre environnement proche. Vitesse de la lumière aux limites de la physique. Bonjour Marc Lachiazeret.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche CNRS émérite au laboratoire Astroparticules et Cosmologie de l'Observatoire de Paris et au laboratoire Sphère de l'Université Paris-Cité. Bonjour Alessandro Roussel.
Bonjour.
Vous êtes vidéaste, auteur de la chaîne YouTube Science Click et du livre Les grandes lois de l'univers, de la gravitation aux particules quantiques, paru aux éditions Alizio Science et réédité en poche chez Champ Flammarion. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à vous qui nous écoutez. Vous pouvez, comme chaque jour, retrouver tous les liens vers les articles qui nous ont permis de préparer cette émission sur le site de la Science CQFD, mais aussi sur notre compte Blue Sky, @ScienceCQFD. Aujourd'hui, on va donc partir d'une notion qui nous semble évidente, celle de la vitesse, et on va étudier les raisons pour lesquelles la notion même de vitesse associée à la lumière nous conduit à faire le constat de bizarreries dans des domaines comme l'astrophysique, la physique des particules, ou bien même la mesure du temps. Et pour commencer en douceur cette discussion, je vous propose de faire un petit retour dans le passé et d'écouter une archive. On écoute la voix de Jean Terrien, directeur du Bureau international des mesures, dans l'émission La science en marche sur France Culture, parlait de la nature de la lumière et de la mesure de sa vitesse.
La nature de la lumière a beaucoup intrigué les physiciens ou les gens cultivés. Et la mesure de sa vitesse a posé des problèmes qui ont été pendant longtemps insolubles. Les anciens n'avaient aucun moyen pour mesurer cette vitesse qui est tellement grande qu'on pouvait croire que la propagation était instantanée. Et pourtant, ils avaient déjà émis les deux hypothèses qui ont subsisté dans les temps modernes. L'hypothèse de la lumière constituée de corpuscules ou bien l'hypothèse d'une lumière constituée par des ondulations, des vibrations. La théorie des corpuscules, c'est celle qui a été soutenue par Newton. La théorie de l'ondulation a été soutenue d'abord par Fresnel, et elle a été étayée par les phénomènes que l'on appelle phénomènes d'interférence. Ce sont des phénomènes qui ne se produisent qu'avec des ondulations, c'est-à-dire des phénomènes périodiques. Par conséquent, Fresnel avait donc prouvé que la lumière est une ondulation. On peut presque dire que les théories les plus récentes font également appel simultanément à la théorie des corpuscules et la théorie des ondulations, puisque la théorie de Fresnel, selon laquelle la lumière est une vibration, est complétée maintenant par les hypothèses et les théories que l'on appelle ondulatoires à la suite des découvertes de Louis de Broglie, où effectivement la lumière est dirigé par des ondulations, nous verrons plus tard que ce sont des ondulations électromagnétiques, mais également il y a des corpuscules que l'on appelle des photons et qui sont nécessaires dans la théorie quantique.
Voilà Marc Lachaiseret, on entendait dans la voix de Jean Terrien un de ces problèmes capitaux qu'est pour la physique, la nature et la vitesse de la lumière. Comme on l'entendait dans cette archive, on a longtemps cru que cette lumière était instantanée, qu'il y en avait ou qu'il n'y en avait pas. À partir de quand on a commencé à remettre en question cette idée d'instantanéité de la lumière?
Eh bien, disons que c'est à l'époque de Newton, c'est-à-dire au XVIIe siècle, qu'il a été montré que la lumière avait une vitesse finie, sans que cette vitesse soit vraiment mesurée. en observant les satellites de Jupiter. Bon, ça paraît assez curieux d'aller observer les satellites de Jupiter pour s'apercevoir de ça, mais finalement, ces satellites eux-mêmes, ils sont occultés par la planète de temps en temps, avec une période finie, et en analysant les retards éventuels sur ce qu'on attendait, bon, bah, on s'aperçoit que ça ne peut s'expliquer que si la lumière a une vitesse de propagation finie, et par la suite, cette vitesse sera mesurée, notamment à l'Observatoire de Paris. Bah, il y a un moyen assez simple de mesurer cette vitesse, c'est de mettre par exemple un miroir assez loin, d'envoyer un rayon lumineux qui est réfléchi, qu'on reçoit, et on regarde quelle durée il a fallu entre l'émission du rayon lumineux et la réflexion de son reflet avec l'horloge de l'observateur. Et sachant que on connaît la distance, par exemple on a fait ça entre l'observatoire de Paris et l'observatoire de Meudon, connaissant la distance, on fait une division, parce qu'une vitesse, c'est quoi? C'est simplement un trajet spatial divisé par un trajet temporel, ce qu'on appelle une durée. Cette notion de durée, elle est très importante, justement. Je pense qu'on va en reparler dans l'émission.
Bien sûr, là, vous faites référence avec cette expérience entre Paris et l'Observatoire de Meudon à une expérience du 19e siècle, celle d'Hippolyte Fizeau, mais de grands noms de l'astrophysique, de l'astronomie, se sont essayés au calcul de la vitesse de la lumière. On pense bien sûr à Galilée, Alessandro Roussel. Pourquoi cette question de la nature, de la vitesse de la lumière, a-t-il un problème aussi capital dans l'histoire de la physique, finalement?
Alors, la question de la composition de la lumière et de la nature de la lumière, en fait, c'est simplement comprendre de quoi est faite cette forme de comportement qu'on observe dans la nature. Mais au XXe siècle, par exemple, c'est essayer de comprendre cette nature qui a révolutionné vraiment la physique moderne et qui a engendré les deux grands piliers de la physique moderne, qui sont la relativité et la physique quantique. Et donc, en fait, c'est en essayant de comprendre la lumière, qui est ce phénomène qui est quasiment instantané à notre échelle, et donc qui peut paraître, dont la vitesse peut paraître inaccessible à la mesure humaine, qu'on a révolutionné nos théories en les poussant dans l'extrême.
Marc Lachaiserais, je vous pose un peu la même question, et voilà, pourquoi ce problème finalement de la compréhension de la nature et de la vitesse de la lumière est-il un problème aussi capital dans l'histoire de la physique, et est-il aussi nécessaire à la compréhension des lois de l'univers?
Oui, on peut dire, en simplifiant, qu'il y a deux problèmes qui se posent, celui de la vitesse de propagation, dont on vient de parler, et celui de la nature de la lumière. Alors, celui de la nature de la lumière, est-ce une particule, est-ce une onde, finalement, a abouti à la physique quantique, avec effectivement contribution très importante d'Einstein au début du XXe siècle, et on s'aperçoit que finalement, la physique quantique nous dit que ce qu'on appelle la lumière, et plus généralement les rayonnements électromagnétiques, puisque la lumière est un des rayonnements électromagnétiques, sont des phénomènes quantiques. Et dire que c'est un phénomène quantique, ça veut dire que dans certaines situations, ça se comporte comme une onde, notamment les interférences. Dans d'autres situations, ça se comporte comme une particule, notamment quand on émet ou quand on détecte de la lumière. Mais en fait, c'est quelque chose qui a un peu des caractéristiques des deux et qui est tout à fait spécifique. Bon, mais je crois que c'est pas vraiment ce sujet-là qu'on veut aborder aujourd'hui. En revanche, la question de la vitesse de la lumière est beaucoup plus singulière et peut-être importante, parce qu'elle a mené à l'autre volet de la physique moderne, qui est la relativité. Et tout ça est parti d'une énigme, c'est que cette vitesse de la lumière, elle est constante. Elle est constante alors que, en général, on a constaté que les vitesses s'additionnaient. C'est très simple. Vous êtes dans un train qui roule à 100 km/h. Vous marchez, vous courez à 10 km/h pour aller au wagon-bar, par exemple, et le chef de gare vous voit passer à 100 plus 10, 110 km/h, ou 100 moins 10 si vous allez dans l'autre sens, km/h. Donc les vitesses se composent en s'ajoutant. Et ben finalement non. Les physiciens du 19e siècle se sont aperçus que non. Lorsqu'on cherchait à composer la vitesse de la lumière avec la vitesse, par exemple, de la source qu'il a émis, eh ben, ça ne s'additionnait pas. C'est-à-dire, si une source mobile émet de la lumière, vous allez recevoir, vous, la lumière, non pas à la vitesse de la lumière d'émission plus la vitesse de la source, mais toujours à la même vitesse de la lumière, qu'on note en général par la lettre C, et dont vous avez donné la valeur tout à l'heure. Donc, la vitesse de la lumière est constante et ça viole une des lois fondamentales de la cinématique newtonienne, c'est-à-dire de la physique du mouvement chez Newton, qui est que les vitesses se composent en additionnant. Donc c'est pas vrai, parce que n'importe quelle vitesse composée à la vitesse de la lumière donne non pas la somme des deux, mais donne toujours la même vitesse de la lumière. Elle est invariante. Et quand on regarde bien, quand on fait des calculs assez simples, on s'aperçoit aujourd'hui, alors c'est pas comme ça que ça a été fait historiquement, mais on s'aperçoit aujourd'hui que finalement, cette constante de la vitesse de la lumière est incompatible avec l'existence du temps. C'est pas une incompatibilité physique, c'est une incompatibilité logique, si vous voulez. C'est-à-dire, le fait qu'il existe une vitesse invariante est incompatible avec l'hypothèse que le temps existe. Alors, l'hypothèse que le temps existe, l'hypothèse du temps, elle a été introduite par la... dans la physique, par Newton. Et en fait, c'était une très bonne hypothèse. Et la preuve que c'était une très bonne hypothèse, c'est que pendant 3 siècles, elle a marché. Et aujourd'hui, dans notre vie courante, elle a marché. Hein. C'est-à-dire, localement, on se retrouve ici à 16 heures. Bon, bah, ça marche très bien. On a des montres dont on dit qu'elles indiquent le temps, etc. Ce qui est complètement faux. Mais on s'en fiche. C'est exactement comme quand on dit la Terre est plate. Si vous jouez au foot, la Terre est plate, pas de problème. Tout va très bien. Le ballon roule sur un terrain qui est plat. Mais dès que vous faites de la physique un peu plus sophistiquée, dès que vous allez à des grandes échelles, bon, ben non, la Terre n'est pas plate. Dès que vous utilisez des horloges de précision, bon, ben non, le temps n'existe plus. Dès que vous utilisez des satellites, non, il n'y a plus de temps, il y a autre chose.
Alors peut-être, Marc Lachaiserey, qu'on peut introduire cette notion de durée, justement, à partir de cette non-existence du temps que vous soulignez ici.
Alors, la durée, on ne l'introduit pas à partir de la non-existence du temps, parce que c'est quelque chose dont on a l'intuition. C'est quelque chose de très simple, la durée. Lorsqu'on fait de la physique, disons... Si on veut faire de la physique, je dirais, moderne, il faut un peu changer de cadre par rapport à ce dont on a l'habitude. C'est-à-dire que Newton, il pose un cadre pour la physique qui est celui de l'espace et du temps. Et il va dire, on a des objets qui sont dans l'espace, et puis ces objets bougent dans l'espace. Bon, quand on va faire de la physique relativiste, de la physique moderne, on va plutôt parler dans l'espace-temps. Et plutôt que de parler d'objets, on va parler d'événements. Qu'est-ce que c'est qu'un événement ? C'est exactement ce dont on a l'intuition. C'est quelque chose qui se produit, mais qui ne dure pas. Par exemple, la collision de deux particules, ou je prends une respiration, chacun de mes battements de cœur, c'est un événement. Et donc, on va représenter ça par un point dans l'espace-temps. L'espace-temps, ça va être cet ensemble de tous les événements, proches, lointains, passés, futurs, présents, toutes ces distinctions. On va voir comment on peut les réintroduire, mais ça sera pas de la même manière qu'avant. Donc, la notion d'événement. Et puis, il y a une autre notion qui est la notion d'histoire, c'est-à-dire, moi, depuis ma naissance jusqu'à maintenant, et puis jusqu'à ma mort, je vis une histoire. C'est-à-dire, je vis une succession d'événements. Hein, ma naissance, mes anniversaires, chacune de mes respirations, chacun de mes battements de cœur, etc. Et ces événements, ils sont liés les uns aux autres, et même de manière continue. Donc, si je dessine chaque événement par un point dans l'espace-temps, quand je vais parler de mon histoire, ça va être une suite de points, continue, c'est exactement ce qu'on appelle une ligne. Et on va appeler ça ma ligne d'univers. Donc chacun de nous ici a sa ligne d'univers. Si vous prenez cet objet, il a sa ligne d'univers, etc. Donc ça veut dire qu'on raisonne non plus en termes d'objets dans l'espace qui se déplacent avec le temps, mais on raisonne en termes de ligne d'univers. C'est-à-dire, cet objet, là, c'est une carafe d'eau, eh ben, c'est une ligne d'univers. C'est-à-dire, à un certain moment, sa ligne d'univers a commencé quand elle est sortie de l'usine, et puis voilà, ici, sa ligne d'univers, elle est à côté de la mienne, donc nous avons la même ligne d'univers. Si je pose cette carafe d'eau un peu loin, la ligne d'univers de la carafe d'eau s'éloigne un peu de la mienne, et quand je la reprends, eh bien, la ligne d'univers me rejoint. Et nous, c'est pareil. Vous venez de, je sais pas où vous habitez, mais enfin, vous avez vécu votre ligne d'univers là-bas, à un certain moment, et moi, c'est pareil. Nos lignes d'univers se sont rejointes ici, et là, nos lignes d'univers vont être confondues pendant une heure, et ensuite, elles vont s'écarter. Et quand elles vont s'écarter, quand on les dessine dans l'espace-temps, on voit bien que des lignes d'univers qui étaient confondues, qui s'écartent, ça fait un angle. Et j'anticipe sur ce qu'on voulait dire.
Mais
ça vient tellement naturellement. C'est tellement naturel, si vous voulez, la vision relativiste par rapport à la vision newtonienne. Et quand ces lignes s'écartent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'éloigne. Et comment représenter un écartement de ligne, que ce soit dans l'espace, sur un plan ou n'importe quoi, par un angle. Donc, on voit tout de suite que la quantité naturelle pour exprimer le mouvement quand on a cette vision-là dans l'espace-temps, mais vous voyez qu'elle est assez naturelle. Il y a rien de révolutionnaire dans ce que je viens de dire. Eh bien, on va représenter les mouvements par des angles. Mmh. Ces angles, on va les appeler des célérités. Et bon,
on en parlera bien sûr,
d'une autre manière.
Tout à l'heure, moi, j'aimerais peut-être qu'on revienne à cette histoire, bien sûr, de la physique et à cette histoire de la mesure de la vitesse de la lumière, puisqu'on on a été assez rapidement au 19e siècle sur ces mesures qui sont toujours, pour certaines, les plus proches, se sont rapprochées de 300 000 km par seconde. En 1973, l'Américain Kenneth Evanson a mesuré avec une grande précision la longueur d'onde et la fréquence d'un laser hélium-néon qui lui a permis d'aboutir à cette mesure que j'exposais en début d'émission, 299 792,458 km par seconde. Une estimation qui n'a pas bougé depuis 1973. Que peut-on dire, Marc Lachaiserais, de cette dernière estimation et pourquoi elle a des conséquences sur la définition du mètre en particulier ?
Alors, si vous voulez, aujourd'hui, on ne mesure plus la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, elle est définie comme étant finalement, à la valeur 1, quand on utilise les bonnes unités. Parce que depuis, alors je ne sais plus les dates exactes, peut-être vous savez mieux que moi, les dernières définitions du mètre...
1983, si je dis
pas
de bêtises.
Oui, et puis ça a été repris ensuite. Voilà, la définition légale du mètre, c'est 1 million, je ne sais plus combien, le chiffre que vous avez cité, deux fois. Enfin, au contraire, pardon.
1 sur...
C'est ça, 1 sur cette fraction, fois... la distance parcourue par la lumière en une seconde. La distance parcourue par la lumière en une seconde, c'est ce qu'on appelle une seconde lumière. Donc, le mètre est défini à partir de la seconde lumière. Et si vous utilisez, plutôt que d'utiliser le mètre, utilisez comme unité la seconde lumière, parce que finalement, ce nombre 1 million que vous avez cité, là, il a aucun sens physique. C'est simplement que, historiquement, on a utiliser le mètre comme unité, parce que c'est une unité très bien adaptée à notre vie courante.
Parce qu'on a besoin de conventions, tout simplement.
Ouais, mais quand on a voulu définir le mètre à la physique moderne, on l'a défini à partir de la seconde. Donc, le mètre, c'est telle fraction de la seconde lumière. Ce qui veut dire que la véritable unité fondamentale, c'est la seconde lumière. Et dans ce cas-là, quelle est la vitesse de la lumière ? Ben, c'est une seconde lumière par seconde, ça vaut 1. Donc, et même, si vous voulez, les physiciens relativistes ont tendance à considérer cette vitesse de la lumière qui a la valeur 1 comme un nombre sans unité, si vous voulez. C'est comme on dit, le rapport de la circonférence sur le rayon d'un cercle, c'est pi. Pi, ça n'a aucune unité. Et finalement, ça veut dire qu'on mesure les distances, non pas en seconde lumière, mais en seconde. Bon... c'est un peu peut-être exagéré, il faudrait le justifier ici pour utiliser cette dénomination qui choquerait beaucoup de physiciens un peu traditionnalistes, mais ça revient un petit peu à ça. Donc, par définition, la vitesse de la lumière, c'est 1 avec ces unités-là. Et c'est un nombre, on n'a plus besoin de l'expliquer, puisque véritablement, c'est pris en compte dans la définition même, et d'une certaine manière, c'est de dire la définition même qu'on a adoptée prend acte de la théorie de la relativité restreinte et prend acte de la physique dans l'espace-temps plutôt que dans l'espace et dans le temps.
Vous me tendez une perche merveilleuse, Marc Lachaiserais, vous parlez de relativité restreinte, on va parler de relativité restreinte et générale dans un instant.
France Culture, la science CQFD, Antoine Beauchamp.
On poursuit avec vous ce voyage dans cette notion qu'est la vitesse de la lumière et sur les problèmes qu'elle nous pose en matière de compréhension de la physique. On a consacré toute une émission, une série d'émissions à 1905, l'année miraculeuse d'Einstein. En 1905, si on résume, Einstein postule que les lois de la physique sont les mêmes pour tous les référentiels inertiels et que la lumière de la vitesse dans le vide est constante pour tous les observateurs. Alors, Alessandro Roussel, il y a cette équation qui est un peu un totem dans l'histoire de la physique, E égale mc2. Quelle est la place de la lumière dans cette équation-là et que postule finalement Einstein en matière de lumière à travers cette équation ?
Alors, dans E égale mc2, on n'a pas directement la lumière. Par contre, ce que postule Einstein au début du XXe siècle, ce qui va entraîner la révolution quantique, c'est l'idée que l'énergie de la lumière s'échange par petits paquets d'énergie qui sont des petites particules quantifiées qu'on appelle les photons. Et donc Einstein engendre de cette façon la révolution qui va quantifier les lois de la physique et désormais parler de particules à l'échelle microscopique, nanoscopique même.
Alors ça c'est voilà.
Donc c'est... ça c'est autre chose.
Ouais, ouais.
Par contre, en ce qui concerne la relativité, E égale mc2, ce que ça nous dit, d'une certaine manière, c'est que les objets, même s'ils sont immobiles dans notre référentiel par rapport à nous, ils possèdent une sorte d'énergie intrinsèque. Et donc cette énergie est donnée par la masse de l'objet, donc c'est-à-dire la masse inertielle, la difficulté qu'on a à déplacer un objet avec en lui appliquant une force. Ça, c'est ce qui mesure sa masse. Et donc voilà, l'énergie d'un objet lorsqu'il est au repos par rapport à nous, cette énergie intrinsèque dépend de sa masse multipliée par ce c au carré, qui est la vitesse de la lumière au carré, mais qui est simplement une sorte de facteur de conversion d'unité pour convertir des masses en des énergies. Donc c'est ce c carré en fait qui est de toute façon une constante puisque la vitesse de la lumière est constante. Après ce E égale mc2, il est valable pour des objets au repos, mais dès qu'on a un objet qui est en mouvement par rapport à nous, l'objet va acquérir une nouvelle forme d'énergie qui est son énergie de mouvement, qu'on appelle l'énergie cinétique en physique classique, mais qui est ici vraiment mélangée avec cette énergie intrinsèque. C'est le terme gamma qui va apparaître, le facteur de Lorentz qu'on voit souvent en relativité restreinte. Et ce terme gamma, c'est un terme qui vaut 1 lorsque l'objet est au repos par rapport à nous et qui augmente jusqu'à l'infini lorsque l'objet se déplace à une vitesse de plus en plus grande jusqu'à la vitesse de la lumière.
En 1915, Marc Lachaiseret, Einstein postule, voilà, va plus loin et postule sa théorie de la relativité générale. Il pose ce concept d'espace-temps, un espace-temps qui est courbe. Pourquoi ce concept-là d'espace-temps courbe va avoir autant d'impact sur notre compréhension justement de notre sujet du jour, de la vitesse de la lumière ?
D'accord. Bon, là, vous allez très vite parce que on vient de parler de relativité restreinte. Et
si vous voulez développer, vous pouvez tout à fait.
Et de cette relation E égale mc2, donc tout à fait ce que vous venez de dire. Très bien. Mais je dirais qu'il y a deux pièges dans cette relation. Il y en a un que vous avez mentionné, c'est ce facteur C2. Parce que, en fait, ça n'est qu'un facteur de conversion. Donc, moi, je plaide pour qu'on l'enlève. C'est-à-dire d'écrire cette relation E égale M, ça serait beaucoup plus clair. Et ça voudrait dire que on oublie le facteur de conversion qui est justement ce facteur de 1 million et quelques, je me rappelle jamais le nombre dont vous parlez, et on écrit E égale M, tout simplement. Pourquoi Einstein a écrit E égale MC2 ? C'est parce qu'à l'époque, l'énergie et la masse étaient considérées comme deux grandeurs très différentes, et donc mesurées avec des unités complètement différentes, par exemple le joule pour l'énergie et le kilogramme pour la masse. Donc si on voulait égaler les deux, il fallait un facteur de conversion entre. Maintenant, l'habitude des physiciens, par exemple les physiciens des particules, quand ils parlent de la masse d'une particule comme le proton, ils parlent plus en kilos, c'est pas adapté. Ils parlent en unités d'énergie, qui sont des électronvolts, ou dans ce cas-là, gigaélectronvolts, la masse de l'électron. On dit plus X grammes, je sais même pas la valeur, on dit 0,5 MeV, c'est-à-dire 1 MeV, c'est 1 million d'électronvolts, et l'électronvolt, c'est unité d'électricité. Donc, si vous voulez, la masse et la grandeur... la masse et l'énergie, cette équation dit que ce sont exactement la même chose. Alors, vous avez distingué ce qu'on appelle la masse au repos, et c'est tout à fait vrai, parce que souvent, quand on dit la masse d'un objet, on parle de sa masse au repos. Or, quand il bouge, on a une énergie cinétique en plus, ce qui fait que l'énergie totale, c'est plus la masse au repos, c'est effectivement ce fameux facteur gamma. Bon, c'est peut-être un petit peu compliqué pour notre émission, mais en plus, il y a de l'énergie cinétique, et la masse de la particule se constitue de sa masse au repos plus l'énergie cinétique, que d'ailleurs, on a du mal à distinguer. Et en fait, cette interprétation qui est la plus courante, parce que la masse, finalement, conceptuellement, c'est autre chose que l'énergie. L'énergie, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de capacité à faire une action, généralement du mouvement, ou émettre de la chaleur. Mmh. Tandis que la masse, c'est quelque chose de différent. Ça a été introduit par Newton, et il y a deux sortes de masse. Il y a la masse d'inertie, qui est ce qui résiste au mouvement, c'est-à-dire si vous poussez votre vélo, vous allez le faire avancer facilement. Si vous poussez une locomotive, vous aurez du mal à la faire avancer parce qu'elle a une masse d'inertie plus élevée. Donc la masse a cette composante de masse d'inertie, mais aussi la masse gravitationnelle, c'est-à-dire un objet exerce une attraction gravitationnelle par l'intermédiaire de sa masse, et il ressent aussi l'attraction gravitationnelle par l'intermédiaire de sa masse. Donc la masse, dans ce sens-là, c'est un peu comme la charge électrique. ce que la charge électrique est à l'interaction électrique, la masse gravitationnelle l'est pour l'interaction gravitationnelle. Or, le grand mystère qui a conduit, entre autres, Einstein à la relativité générale, c'est que, comme l'avait constaté Galilée, comme l'avait constaté Newton, la masse d'inertie et la masse gravitationnelle sont deux choses toujours égales. Alors que conceptuellement, elles sont complètement différentes. Puis il y en a une, c'est la résistance au mouvement, et l'autre, au contraire, c'est ce qui, par l'intermédiaire de la gravitation, va permettre de mettre des corps en mouvement ou de modifier leur mouvement. Donc deux notions comme ça, totalement différentes, presque antagonistes, sont toujours exprimées par la même grandeur. Et ça, donc encore une fois, Newton l'avait vu, sans pouvoir l'expliquer. Et un des souhaits d'Einstein, c'était pas le seul, c'était pas le premier non plus, mais c'était d'essayer de comprendre cette identité qui est liée à ce qu'on appelle l'universalité de la chute libre, et qu'aujourd'hui on appelle principe d'équivalence. Et ce fameux principe d'équivalence, qui est une manière d'exprimer cette identité, c'est sans doute le fondement le plus fondamental, le plus solide, le plus profond de la relativité générale. Et c'est par cela que Einstein est arrivé à sa relativité générale. Et vous me demandiez comment s'est faite la progression de la relativité restreinte à la relativité générale. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que cette formulation moderne de la relativité restreinte que nous avons, elle n'est pas due à Einstein lui-même, parce que Einstein lui-même, bon, dans son article de 1905, je sais pas, vous aviez peut-être lu l'article que j'ai écrit là pour l'anniversaire, mais en tout cas, ce concept d'espace-temps n'a pas encore été introduit par Einstein, ni par Poincaré, qui est aussi un de ceux qui a amené à tout ça, mais un peu plus tard, par Minkowski, je crois que c'est en 1909. Et c'est quelque chose d'éclairant, parce qu'on dirait que cet espace-temps de Minkowski, qui a des propriétés géométriques particulières, il a été fait pour justement décrire le monde avec la cinématique, les mouvements dans le monde. Et d'ailleurs, ça fait écho à une célèbre question de Wigner, c'est comment les mathématiques ont une telle efficacité dans la physique. C'est-à-dire comment ce concept mathématique d'espace-temps de Minkowski, qui fait partie de ce qu'on appelle les géométries non euclidiennes, comment ce concept décrit si bien ce qui se passe dans l'univers, décrit si bien cette théorie de la relativité que, je répète, a été conçue en partie par Poincaré aussi, mais par Einstein en 1905, disons, sans ce concept d'espace-temps. Et essayez de lire l'article d'Einstein de 1905, ben, je vous assure, c'est une petite épreuve, parce que Einstein essayait de rendre compte de cet article avec les notions qu'il avait, et finalement, il était obligé de parler du temps. Parce que les seules notions temporelles qu'on manipule à l'époque, c'était la notion de temps. Donc il est obligé de parler du temps pour expliquer que le temps n'existe pas. Et il le dit pas de manière aussi franche, si vous voulez, mais il le laisse entendre. C'est très subtil chez lui. Mais donc voilà. Donc, en tout cas, 1905, cette théorie, qui finalement, enfin peut-être pas si rapidement ça, mais s'est imposé et a été reformulé dans l'espace-temps. Et quand en 1915 Einstein va arriver à sa théorie de la relativité générale, bon, il n'y est pas arrivé d'un coup, parce que c'est quelque chose à laquelle il a réfléchi toute sa vie, et comme il le disait lui-même, il y pensait pas seulement le matin dans la journée, mais il y pensait la nuit, il y pensait tout le temps. Et il a compris qu'il fallait conserver ce cadre de l'espace-temps. Et qu'il fallait finalement identifier ce qu'on appelait avant la gravitation, ce que Newton avait décrit comme des forces, qu'il fallait identifier la gravitation comme une propriété de l'espace-temps. Et une propriété que finalement il a mis du temps à trouver quelle propriété, et avec l'aide de ses amis mathématiciens, il a appris les mathématiques dont il avait besoin, parce qu'au départ il n'était pas mathématicien. Ces mathématiques, c'est ce qu'on appelle la géométrie non euclidienne, la géométrie riemannienne, et il a compris que on pouvait décrire la gravitation par la courbure de l'espace-temps. Et la courbure, c'est quoi? C'est exactement une déformation. Une déformation, c'est une notion qui est très simple aussi. Si vous prenez une feuille de papier, ben, elle est plate, elle n'a pas de courbure. En revanche, si vous prenez un drap froissé, eh bien, ce drap froissé, il a une courbure qui est partout différente, par endroit positif, par endroit négatif. Bon, ben, pour l'espace-temps, c'est pareil, sauf qu'un drap, c'est à deux dimensions. On peut le voir, et puis c'est assez simple. L'espace, c'est à trois dimensions, l'espace-temps, c'est à quatre dimensions. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, il y a des mathématiques, mais conceptuellement, c'est très simple. C'est-à-dire, l'espace-temps est courbe et les lois du mouvement dans l'espace-temps, ça va être la loi numéro 2 de la relativité générale. Dans la relativité générale, il y a deux lois principales, mais la loi numéro 2, c'est comment se produit le mouvement dans l'espace-temps. Ben, c'est très simple, les objets vont tout droit. C'est tout. Il n'y a besoin de rien dire d'autre. Alors, ça veut dire quoi, aller tout droit? Si vous allez tout droit dans un espace sans courbure, dans l'espace, ben, vous écrivez une ligne droite. Quand l'espace-temps est courbe, il n'y a plus une ligne droite. Sur un drap froissé, il n'y a plus une ligne droite. Mais voyez, si vous avancez tout droit, vous allez suivre une ligne particulière qui s'appelle une géodésique, qui a la propriété qu'entre deux points, c'est le trajet le plus court. Ça, c'est très bien défini mathématiquement, ça s'appelle une géodésique. Et décrire une géodésique, c'est la traduction mathématique de aller tout droit. Donc la loi du mouvement en relativité générale, il n'y a pas plus simple, c'est les corps vont tout droit. Bon, ensuite, la deuxième loi de la relativité générale, que Einstein a eu du mal à mettre sur pied, c'est comment est créée la courbure de l'espace-temps. Puisque ça remplace ce que c'est que la gravitation, on a l'idée que c'est la masse qui va créer ça, qui va créer cette courbure de l'espace-temps. Donc, l'énergie. Mais quand on regarde l'énergie, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui n'est pas très bien défini, parce que comme vous l'avez dit, ben, l'énergie d'un corps, ça dépend de celui qui regarde le corps. Parce que si je regarde, par exemple, une voiture et que je suis dans la voiture à côté qui va à la même vitesse par rapport à moi, elle est au repos, donc elle n'a pas d'énergie de mouvement. Si le piéton la regarde, il y a une énergie de mouvement. Donc, l'énergie de la voiture, ça ne veut rien dire tant qu'on ne précise pas de quel point de vue. Et ça, ça ne colle pas dans la théorie de la relativité, parce que bien que ça s'appelle théorie de la relativité, c'était une théorie qui manipule des absolus. Et le bruit court, alors je n'ai pas trouvé la citation, mais que Einstein n'aimait pas ce nom qu'on donnait à sa théorie, théorie de la relativité, il aurait voulu au contraire l'appeler une théorie des absolus. Mais pourquoi ça s'appelle, à mon avis, ça ne va pas si mal de l'appeler théorie de la relativité, parce que pour définir des quantités absolues, il faut comprendre que les quantités qu'on manipule sont relatives. C'est-à-dire le temps est relatif, la vitesse c'est relatif, l'énergie c'est relatif. Donc ces choses-là, on les remplace par quelque chose d'absolu. On remplace le temps par l'espace-temps, on remplace la vitesse par autre chose qui s'appelle la quadrivitesse, on remplace l'énergie par autre chose qui s'appelle le quadrimoment. Et finalement, on s'aperçoit que l'énergie, ça n'est que la manière dont un observateur voit cette quantité absolue qui s'appelle le quadrimoment. Bon. Donc, énergie devient un truc relatif, subjectif, qui dépend de l'observateur, tandis qu'il y a quelque chose de bien défini qui s'appelle le quadrimoment.
Après ce brillant exposé, oui, je l'achèverai sur la relativité d'Einstein, qu'elle soit restreinte ou générale. On va revenir dans quelques instants, bien sûr, d'accord, à notre sujet et à cette question bien de sûr. La vitesse de la lumière. Pourquoi cette vitesse de la lumière nous pose autant de problèmes et pourquoi, surtout, on ne peut pas l'atteindre malgré tous nos efforts et toute notre bonne volonté.
Tell me 100 things that I accept is gospel truth.
Nothing travels faster than the speed of light par Sparks dans la science CQFD sur France Culture. On parle en effet aujourd'hui de cette vitesse indépassable qui est celle de la vitesse de la lumière. Et on en parle avec Marc Lachaiseraie, astrophysicien, directeur de recherche CNRS émérite au laboratoire Astroparticules et Cosmologie de l'Observatoire de Paris et au laboratoire Sphère de l'Université Paris-Cité. En compagnie également d'Alessandro Roussel, vidéaste, auteur de la chaîne YouTube Science Click. Alors, je vais vous poser une question, Alessandro Roussel, qui semble bête, mais c'est pourquoi on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Le LHC, ce grand collisionneur de hadrons du CERN qui émet des protons très très énergétiques, se rapproche de cette vitesse. Il lui manque 3 mètres par seconde à ce proton pour atteindre la vitesse de la lumière. Pourquoi, malgré la bonne volonté des physiciens du CERN et des techniciens du CERN, on n'arrive pas à atteindre la vitesse de la lumière?
Alors, il faut bien voir que la relativité, c'est la théorie des observations personnelles propres à chacun. Donc il faut imaginer le point de vue de ce proton qui se déplace. Pour lui, la lumière, imaginons qu'il y a de la lumière qui passe à côté de lui, et bien de son point de vue, lui, il est immobile. Le proton est immobile dans son référentiel. Et donc la lumière se déplace comme elle le fait dans tous les référentiels, c'est-à-dire elle se déplace à la vitesse de la lumière. Donc pour ce proton, la vitesse de la lumière se déplace à la même vitesse que pour nous qui nous pensons immobiles. C'est-à-dire que, quel que soit le référentiel dans lequel on se trouve, la lumière est toujours à la même vitesse. Il est impossible de l'atteindre, on ne peut pas s'en rapprocher dans notre référentiel, puisque par définition, dans notre référentiel, on est toujours immobile.
Ça veut dire que la vitesse de la lumière, c'est une forme d'infini, d'une certaine façon?
C'est une forme d'infini, puisque on a beau accélérer, on se trouve dans un nouveau référentiel, mais la vitesse de la lumière continue d'aller à la même vitesse dans ce nouveau référentiel, et donc on aurait beau accélérer constamment, on ne se rapprocherait pas plus que ça.
Ça veut dire, Marc Lachaiseraie, que même si on mettait toute l'énergie de l'univers dans ce collisionneur de hadrons, on n'atteindrait pas la vitesse de la lumière.
Tout à fait. Mais oui, vous avez utilisé la bonne formule. C'est une forme d'infini qui n'est pas infinie. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, quand on avait les bonnes unités, la vitesse de la lumière, c'était 1. Mais si on prend l'exemple que vous avez donné du proton, on s'aperçoit que la vitesse du proton, exprimé en unité de vitesse de lumière, c'est 0,99999, je ne sais plus combien de 9, avec un 8 après. Alors, le but d'un accélérateur, c'est de donner le plus d'énergie au proton quand il va arriver sur un autre proton pour qu'il y ait une collision. Alors, si vous envoyez votre proton accéléré très fort sur un autre proton au repos, il y aura déjà pas mal d'énergie. Mais si vous voulez faire encore mieux, vous allez accélérer un proton dans l'autre sens, et vous les envoyez l'un contre l'autre. Donc vous vous dites, ils ont chacun la même énergie dans le sens contraire, ça va faire deux fois plus d'énergie. Bon, ça ne fait pas deux fois plus, ça fait beaucoup plus que deux fois plus. Parce que si vous avez deux voitures qui arrivent en sens inverse, il y aura deux fois plus d'énergie que si les voitures arrivaient contre un mur. Bon, ça ne se passe pas du tout comme ça. Mais le problème, c'est que quand vous avez le proton qui va avec cette vitesse 0,99998 par rapport à vous, par rapport au laboratoire qui est au repos, vous pouvez vous dire, l'autre proton, il va à la même vitesse en sens inverse, quelle est la vitesse du premier proton par rapport au second? C'est le problème que vous mentionniez à l'instant. C'est pas du tout deux fois la vitesse. C'est simplement toujours la même, 0,99998, et ensuite 0,00000001. C'est complètement indiscernable. C'est complètement la vitesse, elle a presque pas bougé quand on l'exprime en termes de vitesse. Et c'est pour ça que il vaut beaucoup mieux utiliser une autre quantité qu'on appelle donc la célérité. Et on s'aperçoit que qui est liée à la vitesse mais différente. Et quand on s'aperçoit, quand on calcule la célérité du premier proton, je crois que c'est quelque chose de 13 pour le proton le plus rapide qui ait jamais été accéléré. L'autre, il vient aussi avec une célérité de 13. Et la célérité du premier par rapport au second, c'est tout simplement 13 plus 13, 26. Ça s'additionne. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus simple d'utiliser cette quantité-là. Et en plus, on va peut-être en parler, mais elle est beaucoup mieux adaptée à la vision spatio-temporelle que la notion de vitesse. Mais en tout cas, elle aide beaucoup à exprimer les choses. Parce que au lieu d'être obligé de manipuler des chiffres avec des 99999 ou 0,00001, on manipule des chiffres qui ont une taille humaine, je dirais. La célérité, c'est 15. La célérité, c'est 15 dans l'autre sens. La célérité, quand on compose les deux, c'est 15 plus 15 égale 30.
Cette notion de célérité, Marc Lachaiserey, elle est au cœur d'un des articles, d'un article que vous allez faire paraître bientôt dans une revue qui s'appelle L'Archicube. On peut peut-être donner une définition de ce qu'est cette célérité d'un point de vue.
Oui, je vais la donner. Juste une chose avant, c'est que l'intérêt de la célérité, c'est que on s'aperçoit que quand on accélère, bah, puisque ça s'additionne, on peut la faire accélérer jusqu'à l'infini. Et la célérité, c'est une quantité qui va jusqu'à l'infini. Et il se trouve que célérité infinie, ça correspond à vitesse égale 1. C'est pour ça que la vitesse limite, c'est 1. Mais ce 1, ça n'est qu'une mauvaise transcription de la valeur infinie de la célérité. Et alors, la célérité, voilà. Pourquoi utiliser cette notion plutôt que la vitesse évidemment, on pourrait dire parce qu'elle est beaucoup plus pratique, et c'est vrai, mais aussi parce qu'elle est beaucoup plus naturelle, elle correspond beaucoup mieux à la physique dans l'espace-temps. Rappelez-vous ce que je disais au début, chacun de nous décrit une ligne dans l'espace-temps. Et d'ailleurs, même si vous avez l'impression d'être au repos, vous avancez, parce que quand vous dites « le temps passe », bon, le temps passe pas du tout. C'est vous qui passez dans le temps. C'est vous qui décrivez votre ligne d'univers. Et d'ailleurs, la bonne manière de dire les choses, c'est de dire vous passez dans l'espace-temps. Et ce passage, c'est exactement la progression le long de votre ligne d'univers. Exactement comme quand vous êtes en voiture sur l'autoroute, votre voiture progresse sur l'autoroute, c'est pas l'autoroute qui passe. Et là, c'est pareil. Vous progressez dans l'espace-temps, c'est pas ni le temps qui passe, ni l'espace-temps qui passe. Bon, donc vous décrivez votre ligne d'univers. Comme je disais tout à l'heure, si on est au repos l'un par rapport à l'autre, nos lignes d'univers sont confondues ou elles sont parallèles. S'il y a du mouvement, ça veut dire que les lignes d'univers s'écartent, et vous dessinez donc tout simplement des lignes dans l'espace-temps, et si elles s'écartent, quelle est la manière naturelle de mesurer l'écart que font deux lignes qui divergent? C'est un angle. Donc,
on en vient à cette notion d'angle de tout à l'heure.
Voilà, on en arrive, et cet angle, c'est ça qu'on appelle la célérité. Et il se trouve que bon, la vitesse, la géométrie de l'espace-temps est un petit peu spéciale par rapport à l'un autre. Chez nous, les angles, ils vont de 0 à 360 degrés, 0 à 2π, quand on est sans unité. Ici, ils vont de 0 à l'infini. Donc, cet angle, c'est tout simplement ce qui va varier de 0 à l'infini, et vous n'arriverez jamais à l'infini. Vous n'arriverez jamais. C'est-à-dire que vous pouvez toujours additionner. Les angles, ils se composent en s'additionnant. Hein. Quand vous additionnez, quand vous mettez deux angles à côté, l'angle total, c'est la somme des deux angles. Donc, vous voyez, il n'y a absolument rien de plus simple, conceptuellement, une fois que vous êtes passé dans cette vision géométrique. Et l'intérêt de la relativité, c'est. Souvent, on entend dire que c'est une théorie compliquée. Mais je vous promets que quand vous faites de la cinématique, c'est-à-dire quand vous étudiez les mouvements, dès qu'il y a des vitesses importantes, il y a des physiciens encore qui ont tendance à considérer la relativité comme une théorie qui permet de corriger les formules newtoniennes. Mais c'est épouvantable, c'est très compliqué, on se trompe tout le temps, on arrive à des notions complètement paradoxales. Non, vous faites ça dans l'espace-temps, c'est très simple, vous faites de la géométrie, alors évidemment il faut apprendre la géométrie non euclidienne, mais ça se fait en licence de mathématiques, c'est pas du tout quelque chose... À l'époque d'Einstein, c'était difficile, Einstein connaissait pas ça, c'était quelque chose de très nouveau, et il a eu besoin de se former avec ses amis mathématiciens.
Si on en revient à cette notion de célérité, Marc Lachaiserey, à quel moment elle se distingue? À quelle échelle? À quel endroit elle se distingue de la vitesse?
Oui, bonne question. Il y a une formule qui permet de passer de la célérité à la vitesse. Je peux la donner pour les auditeurs qui connaissent. C'est simplement que la vitesse, c'est la tangente hyperbolique de la célérité. Bon.
Une fois qu'on a dit ça, il faut un peu clarifier les choses.
Si vous voulez, n'importe quel mathématicien connaît très bien cette formule de la tangente hyperbolique, mais peu importe. Donc, il se trouve que pour les vitesses faibles, bon, nous, en unité de vitesse de la lumière, on dépasse jamais le millionième. Hein, si vous allez à la vitesse du son, par exemple, c'est exactement un millionième, c'est pratique. La vitesse du son, ben, vous l'avez peut-être atteinte dans un avion, etc. Mais enfin, c'est pas tous les jours, quoi. Et les vitesses que nous pratiquons en voiture, c'est plutôt quelques milliardièmes. Donc, on est dans des valeurs très petites. Et quand on est petit, il se trouve que la formule nous dit que célérité et vitesse, c'est presque la même chose. Donc, comme les célérités s'additionnent, les vitesses s'additionnent. Mais quand je vous disais tout à l'heure, dans le train, 100 km/h plus 10 km/h donne 110 km/h, c'est pas tout à fait vrai. Sauf que la différence, elle est indiscernable. Donc, pour les petites vitesses, c'est ça. Pour les grandes vitesses, c'est complètement faux. C'est-à-dire, je vous l'ai montré tout à l'heure avec l'exemple du proton du CERN, quand vous additionnez, quand vous composez deux vitesses identiques, vous arrivez à une vitesse qui est presque indiscernable, alors que les célérités, eh bien, elles se composent en s'additionnant. Et donc, il y a des exponentielles là-dedans, c'est pour ça que des petites différences d'un côté correspondent à des grandes différences de l'autre.
Alors, si on résume, c'est juste un problème de terme, et qu'est-ce que ça nous dit, du coup, d'un point de vue épistémologique, cette notion de vitesse de la lumière, quelle limite cette vitesse impose, et faut-il la remplacer dès aujourd'hui par la célérité ?
C'est ce que j'appelle un artefact, quoi, c'est-à-dire... Il n'y a pas à se demander quelle est la raison métaphysique profonde de l'existence d'une vitesse limite. En fait, c'est la célérité infinie. Si on remplace vitesse par célérité parce que on a compris que c'est la bonne notion à utiliser dans l'espace-temps, bah, jusqu'où ça peut aller une vitesse, une célérité, ça peut aller jusqu'à l'infini. Donc, maintenant, si vous dites, je préfère utiliser cette notion de vitesse pour des raisons historiques ou des raisons, je ne sais pas moi, sentimentales, vous pouvez utiliser la vitesse. Et là, vous avez introduit ces deux complications qui sont le fait qu'elles ne s'additionnent pas, elles ne se composent pas en s'additionnant, et le fait qu'il y a cette espèce de limite, mais c'est un truc complètement artificiel, quoi. C'est comme si vous êtes sur l'autoroute, il y a un panneau 130 km/h. C'est pas une limitation physique à votre vitesse. C'est peut-être pas un très bon exemple, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça n'a aucune signification physique, sinon le fait qu'on utilise cette grandeur qui n'est pas la grandeur naturelle que l'on devrait utiliser si on était en physique fondamentale. Mais voilà, donc ça sert à rien de disserter sur l'existence d'une vitesse physique. Si vous voulez. Voir d'où ça vient du fait que historiquement on a commencé à utiliser la notion de vitesse parce qu'on avait la notion de longueur et la notion de durée, on fait la différence des deux, c'est bien, mais maintenant on s'aperçoit que la notion de longueur et la notion de durée quand on est l'espace-temps, c'est pas si évident. Par exemple, vous vous dites quelle est la distance entre le soleil et nous, c'est pas si facile à mesurer, mais vous pouvez imaginer des procédures pour le mesurer. Mais vous allez vous demander, le soleil par rapport à nous, il bouge. Donc sa distance, finalement, elle change. Donc vous allez dire, la distance entre moi maintenant et le soleil, à quel moment ? Donc vous avez envie de dire, la distance entre moi maintenant et le soleil maintenant. Sauf que maintenant, c'est quoi ? Quand vous voyez le soleil, vous le voyez tel qu'il était 8 minutes dans le passé. Donc, si on fait par l'intermédiaire d'un rayon lumineux, ça ne sera pas le soleil maintenant. Donc, la notion de distance, vous voyez, elle est mal définie. Mmh. Si vous avez un objet qui se rapproche, est-ce que c'est la distance dont vous allez parler entre vous et l'objet au moment où vous le voyez, c'est-à-dire dans le passé, ou au moment où il est maintenant ? Mais d'une certaine manière, vous ne pouvez même pas le savoir, parce qu'il a peut-être changé de direction et de vitesse. Donc, cette notion de distance, que dans la vie courante, on manipule de manière tout à fait normale, simple et évidente, elle n'est pas si bien définie que ça en relativité. Et par exemple, si vous voulez parler de la distance d'une étoile, c'est très marrant parce qu'il y a des tas de distances. Selon la manière dont on mesure, il y a la distance angulaire, le diamètre angulaire, la distance luminosité, la distance parallaxe, etc. Et il y a même des distances qui sont paradoxales parce que quand l'objet devient plus loin, sa distance augmente, évidemment. Il peut se trouver que quand l'objet s'éloigne encore, sa distance diminue. Vous voyez, c'est paradoxal. Je vais pas expliquer ça parce que c'est un peu trop compliqué. Mais la notion de distance, quand vous essayez de la définir, c'est pas si simple.
Marc Lachaiserey, je sais que le temps n'existe pas, mais on n'a plus le temps. On arrive déjà au terme de cette discussion. Merci beaucoup à tous les deux, Alessandro Roussel. On peut retrouver toutes vos vidéos sur votre chaîne YouTube Science Click. Et on peut vous lire dans le livre Les grandes lois de l'univers de la gravitation en particules quantiques paru aux éditions Alizio Science et réédité en poche chez Champflammarion. Et Marc Lachaiserey, on pourra vous retrouver prochainement en conférence parce que les 3, 4 et 5 décembre à Besançon se tiendra la 8e édition du congrès Time World. Le thème choisi cette année est justement la limite. Vous donnerez à cette occasion une conférence le 4 décembre à 14h20 intitulée « Y a-t-il vraiment une limite pour les vitesses ?» Toute la programmation du congrès Time World est à retrouver sur le site timeworldevent.com. À présent, il est l'heure, comme chaque jour, de retrouver Alexandra Delbo pour sa chronique Avec Science. C'est la semaine des Nobel et aujourd'hui était remis à Stockholm le prix Nobel de chimie.
Et le troisième trio de la semaine, le prix Nobel de chimie 2025, a été décerné aujourd'hui au Britannique Richard Robson, professeur à l'université de Melbourne, le Japonais Susumu Kitagawa, professeur à l'université de Kyoto, et le Jordanien Omar Yagi, qui lui est professeur à l'université de Californie à Berkeley. Tous les trois sont récompensés pour avoir ouvert un nouveau chapitre dans la chimie des matériaux, celui des réseaux métallo-organiques, Metal Organic Framework, en anglais, d'où l'abréviation de MOF. François-Xavier Coudert est directeur de recherche CNRS à l'université PSL.
Donc ces réseaux MOF, c'est en fait des architectures moléculaires construites de métaux et de ligands organiques qu'on assemble et ça fait un peu comme un jeu de Lego ou de mécano moléculaire. En fait, il y avait déjà de nombreuses familles de matériaux comme ça qu'on peut construire en assemblant des briques de base. Ça, c'est la chimie des matériaux de façon générale. Ce qui a vraiment été important dans la découverte des réseaux MOF, c'est de pouvoir avoir des réseaux stables, construits sur des briques bien définies, et de pouvoir changer les briques quasiment à l'infini. C'est-à-dire que comme quand vous construisez votre Lego, si vous voulez changer la couleur d'une brique, si vous voulez changer l'espacement en prenant des briques plus longues ou des briques plus courtes, ou des briques en triangle plutôt que des briques linéaires, c'est possible. Et c'est vraiment ça qui fait la nouveauté de ces MOF par rapport à des matériaux plus classiques.
Les structures poreuses avec des trous ne sont pas nouvelles. Elles servent depuis longtemps à séparer des gaz ou à purifier l'oxygène médical. Autre exemple que vous avez peut-être chez vous dans vos carafes d'eau, le charbon actif. C'est une structure poreuse naturelle. Mais la différence avec un MOF, c'est qu'ici, tout est contrôlable comme un Lego. Et cette révolution s'est faite en deux temps. D'abord avec Richard Robson, qui a montré en 1989 qu'on peut relier des briques organiques et inorganiques pour créer des réseaux infinis mais encore instable. 10 ans plus tard, Omar Yagi, qui invente le terme de MOF, et Susumi Kitagawa démontrent séparément qu'on peut choisir et contrôler tous les paramètres de ces réseaux, la nature des briques, la taille des trous et les fonctions chimiques à l'intérieur.
Les étapes, il y a la création de la chimie sous-jacente, enfin la reconnaissance de la chimie sous-jacente, et puis après, comment je vais pouvoir utiliser ça vraiment pour faire du design de matériaux. Ah ben, je voudrais un matériau avec des pores plus grands et portant des fonctions alcool. Je peux. Il faut que je modifie telle ou telle brique pour pouvoir arriver à ça. Alors, c'est vraiment de la recherche en train de se faire, à la fois sur le plan fondamental et sur le plan de la chimie, on va dire, à l'échelle plus industrielle. Aujourd'hui, il y a des MOF qui sont, ça fait plusieurs années qu'il y a déjà des réseaux MOF qui sont commercialisés. Donc, on peut acheter des MOF dans le commerce auprès d'entreprises chimiques à l'échelle du kilo. On a des productions qui peuvent se faire à l'échelle de la tonne. Il y a quelques applications, on va dire, sur des marchés un peu de niche, mais on est encore à trouver quelles vont être les bonnes applications à très large échelle.
30 ans après ces premières découvertes, nous ne sommes encore qu'au balbutiement des applications. Les pistes sont nombreuses. Omar Yagi, par exemple, tente de créer des matériaux capables de capturer et condenser l'eau liquide dans des atmosphères très sèches. D'autres MOF pourraient piéger le CO2, éliminer des toxines environnementales ou encore servir de vecteur pour l'administration de médicaments. Pour l'instant, ces matériaux se heurtent à une difficulté concrète, leur coût. Les matériaux poreux classiques, comme le charbon actif, sont beaucoup moins performant, avec des applications un petit peu moins spécifiques et beaucoup moins chères. L'enjeu à présent est de trouver des applications pour lesquelles la balance coût-bénéfice soit réellement intéressante et rentable pour ces MOF. Alors, vous avez peut-être senti votre cerveau un petit peu poreux à cet engouement pour les MOF, mais pour les chimistes, c'est très beau.
En plus, c'est des structures qui sont magnifiques, donc elles ont très vite eu un attrait pour les chimistes, des structures poreuses, de haute symétrie, très très... C'est difficile à décrire, mais très belle pour un chimiste. Je connais très bien l'équipe du professeur Kitagawa parce qu'on a même une collaboration ensemble. On travaille ensemble. On a un labo de recherche associé entre le CNRS, plusieurs universités en France et son laboratoire de recherche à l'Université de Kyoto. Donc, je le connais. Je l'ai vu il y a 15 jours. Et donc, je suis vraiment ravi de voir à la fois pour les personnes et pour ce sujet que ce soit une belle chimie distinguée.
Merci beaucoup Alexandra Delbo, on vous retrouve demain pour votre prochaine chronique avec Science. Comme vous le savez, depuis la rentrée, France Culture propose une nouvelle série de podcasts intitulée Le Fil Culture G, tous les jours du lundi au dimanche et en 3 minutes 30, la philo, l'histoire, l'économie, les sciences, le numérique, la pop culture et même la gastronomie sont mises en perspective par celles et ceux qui les font. Aujourd'hui, on retrouve donc Le Fil Science en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. La professeure d'anthropologie génétique Evelyne Ayer poursuit son récit de l'Odyssée des humains.
Peut-on dire que l'humain est un artiste depuis toujours ? Eh oui, l'art est né à la préhistoire. Vers 35 000, 40 000 ans avant notre ère, l'art explose. Grottes de Chauvet, puis grottes de Lascaux, mais aussi de petits objets en pierre et en ivoire de mammouth, comme les Vénus. D'ailleurs, une des plus merveilleuses, la Vénus de Lespugue, est exposée au Musée de l'Homme à Paris. Elle est bouleversante de modernité. Bref, c'est l'époque de notre espèce Homo sapiens qui est sans conteste un artiste accompli. Ce qu'on appelle le mobilier devient artistique. Les objets du quotidien des hommes modernes, comme les armes ou les outils, se couvrent peu à peu de représentations figuratives, humaines ou animaux, et géométriques, dont la dimension est tout autant décorative que symbolique. Cet art est visible et il circule entre les groupes humains. Mais c'est aussi l'explosion des dessins dans les grottes ou dans des abris sous roches, ce que l'on nomme l'art pariétal. Plus de 400 grottes ornées en Europe occidentale. On les retrouve surtout en France, en Espagne, dans le sud de l'Italie et jusqu'en Asie. Les dessins figurent des animaux, des signes géométriques, des dessins anthropomorphes, mais aussi les fameuses empreintes de mains. Le plus surprenant dans cet art est qu'à côté de lieux accessibles à tous, on le retrouve dans des méandres, des galeries, des boyaux étroits. Comme un art confidentiel, il est disposé hors du temps et du quotidien des humains. Comme s'il était réservé à quelques artistes privilégiés, à des initiés que l'on imagine en train de parcourir ces espaces souterrains à l'aide de lampes à graisse ou de torches de résineux. De plus, l'art des grottes n'est pas une reproduction du réel. C'est pour cela que l'on pense que cet art transmet des messages symboliques, des codes, mais il reste bien difficile à interpréter. Mon collègue, Patrick Payet, spécialiste de l'art pariétal, dit même « Dans les grottes, l'art est probablement dicté par un besoin impérieux de communiquer. Communiquer avec son groupe, avec d'autres humains, transmettre sa propre vision du monde et perpétuer une mémoire au service du mythe ou de toute autre histoire. » L'art pariétal, ses dessins dans les grottes, est un des arts les plus mystérieux. Mais il existait aussi certainement d'autres formes d'art qui n'ont pas forcément laissé de traces. On sait par exemple qu'avec Homo sapiens, vers 40 000 ans avant notre ère, c'est le début de la musique. On a retrouvé des flûtes ou des sifflets en os creux perforés, des rhombes et d'autres instruments comme des percussions qui prouvent bien que les premiers hommes modernes pratiquaient la musique. Et vous allez me dire, qu'en est-il de la danse, de la peinture corporelle, bref, des arts faits en matériaux qui disparaissent. Alors oui, on peut dire que l'humain est un artiste depuis toujours. Le plus extraordinaire est que nous soyons touchés par une gravure, une sculpture, une peinture créée par un humain il y a plusieurs dizaines de milliers d'années.
Merci beaucoup Evelyne Ayer d'avoir déroulé ce Fil Science. On le retrouve bien sûr sur le site de France Culture et on vous retrouve prochainement dans la Science CQFD. Un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Joseph Schlegel, Eve Etienne, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Natacha Triou, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Olivier Arnet. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les précédentes sur le site de France Culture ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans la Science CQFD et en attendant, gardez le bon cap, il y a toujours une terre de science en vue.